Chers auditeurs, il ne suffisait pas de relever les ruines matérielles accumulées par la loi de la séparation. Il fallait également réagir devant les attaques de l'ennemi contre la présence et l'influence de l'Église dans la société française. Le chrétien est un soldat du Christ, aimait à dire Monseigneur Gieure. Il va décréter la mobilisation générale de ses troupes et les mener lui-même au combat. Le bulletin religieux du 28 février 1909 publiait une lettre circulaire de l'évêque à son clergé où l'on pouvait lire: Vous trouverez dans le bulletin de ce jour deux rapports, l'un sur l'organisation de l'action catholique dans le diocèse, l'autre sur la création d'associations de pères de famille pour protéger la foi des enfants dans les écoles publiques. Une réunion préparatoire avait eu lieu à Orthez le 25 novembre 1908 et avait regroupé autour de Monseigneur l'évêque tous les responsables diocésains. Il avait été convenu de constituer une action catholique diocésaine. À la base de son organisation, il y aurait un comité paroissial. Ce comité paroissial devait être composé exclusivement d'hommes, cependant les femmes pouvaient s'y rattacher comme auxiliaires et en nombre illimité. Les membres du comité et les auxiliaires, hommes et femmes, devaient être réputés pour leur dévouement à la cause catholique. Le rôle de ce comité consistait à répercuter et à organiser, selon les moyens du bord, l'étude des questions proposées par le comité diocésain. Celui-ci disposait de 6 commissions chargées chacune d'un secteur de l'action à promouvoir: l'enseignement, les intérêts religieux, les questions agricoles et sociales, les œuvres de jeunesse, la presse et la propagande, et l'enseignement secondaire. Un comité décanal devait défendre les intérêts religieux du canton, aider les curés à constituer les comités paroissiaux, éclairer le comité diocésain et le seconder dans son œuvre générale. Chaque année, le comité de doyenné s'efforcerait d'organiser un congrès des œuvres du canton sous la direction de Monsieur le doyen. Dans la lettre circulaire qu'il joignait à la publication des statuts, Monseigneur Gieure lançait un appel vibrant à la vaillance des curés de paroisse, sans lesquels rien ne pouvait réussir, et il concluait son propos en disant: Trop longtemps, on a dit de nous, ils n'ont ni chef, ni soldat, ils n'ont ni mot d'ordre, ni plan de campagne. Des chefs, nous en avons, le pape et les évêques, qui nous donneront le mot d'ordre et un plan de campagne. À vous, messieurs et chers collaborateurs, de recruter les troupes et de les embrigader. Les différents comités se constituèrent rapidement, non sans quelques difficultés, il est vrai, dans les petites paroisses. À ce sujet, M. l'abbé Medebiel, curé doyen de Morlaàs, nommé responsable des œuvres diocésaines, publia dans le bulletin religieux un article sous forme de dialogue avec un vieux camarade de classe qui tentait à répondre aux objections et aux difficultés que l'organisation des comités pouvait rencontrer dans les petites paroisses. Comme le suggéraient les statuts de l'Action catholique, les comités de canton vont organiser des congrès dans les doyennés et de 1910 à 1913, la moitié d'entre eux aura son congrès. On y traitait diverses questions intéressant la vie religieuse, sociale et même économique. Le congrès décanal d'Oloron en 1911 vota une motion concernant la question scolaire. Le bulletin religieux le signala et ajouta le commentaire suivant: Nous souhaitons que désormais, dans tous les congrès cantonaux, soient votés des ordres du jour de ce genre. Ainsi, petit à petit, se fixeront certaines revendications et se feront des mentalités résolument libérales et chrétiennes. Le souhait du bulletin fut entendu, les congrès cantonaux votèrent des motions contenant des revendications adressées au pouvoir public: respect de la religion à l'école, répartition des subventions de l'État aux écoles libres et publiques, etc. L'organisation générale de l'action catholique prévoyait au sommet, nous l'avons dit, un comité diocésain dont une des missions était de préparer chaque année un congrès diocésain. Le premier de ces congrès eut lieu à Bayonne en novembre 1909. Auparavant avait été faite une grande enquête dans tout le diocèse. Le deuxième congrès se déroula un an après à Pau. En 1911, on revint à Bayonne. Monseigneur Gieur y avait invité les dames dont le concours, disait Monseigneur l'évêque, était indispensable pour assurer le succès du congrès et réaliser les résolutions prises. On y parla surtout de la franc-maçonnerie et de la question scolaire, la question actuelle par excellence, écrivait Monseigneur Gieur. Il procéda cette année-là à une révision du grand catéchisme. En 1912, le congrès se tint de nouveau à Pau. On y traita de l'action catholique, des associations des pères de famille, de l'œuvre des dames catéchistes et des œuvres de jeunesse. Le cinquième congrès, en 1913, fut entièrement consacré à la musique sacrée. Il se démarqua des précédents par son côté pratique. Les conférences, en effet, étaient illustrées par les prestations des scolés de Saint-Jean-de-Luz et de Saint-Léon, de Bayonne, ce qui lui assura un succès dépassant largement les limites du diocèse. On disait qu'une centaine de journaux à travers le monde avaient évoqué le congrès de Bayonne. En conclusion des débats, il fut décidé de créer une commission de musique sacrée avec la mission de veiller à la musique et aux chants exécutés dans les églises du diocèse. Son activité contribua à améliorer le chant d'église selon les règles du motu proprio du pape Pie X. La lettre épiscopale du 14 décembre 1922 réorganisa l'étude de la musique sacrée et du chant dans les séminaires et ainsi que l'étude de l'harmonium. Et le rapport de l'inspection musicale de 1934 constate le sérieux de l'étude de cet art au séminaire. Désormais, il fait partie du bagage scientifique de tout aspirant au sacerdoce. Une maîtrise épiscopale vit le jour en 1919, formée de jeunes garçons choisis parmi ceux qui présentaient un projet de vocation. Elle devait assurer tous les jours le chant de la messe capitulaire et pour les solennités, se joindre au chœur du grand séminaire pour l'exécution du programme musical à la cathédrale. Le diocèse de Bayonne est alors considéré comme un modèle pour l'application des directives pontificales concernant le chant sacré. En février 1923, le bulletin religieux publie une lettre que le cardinal Bisletti adressait à Mgr Gieur en lui rendant hommage pour le zèle que son clergé et son peuple nourrissaient pour le vrai et grand art de la musique sacrée. Nous verrons la prochaine fois l'histoire du diocèse pendant la Première Guerre mondiale.